Bonjour à tous, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va faire un rappel. Le verset qui sert un peu de fond pour ces études-là, c'est quoi? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde, à ce monde, à la pensée de ce monde présent. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de quoi? De discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin de discerner la volonté de Dieu. Et comment on peut faire ça? Il dit transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ce qui nous aide à faire ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes tous chrétiens, je crois, ici, dans cette salle. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à pouvoir discerner aussi les choses. Pouvoir chercher la volonté de Dieu, vivre selon sa volonté, et aussi, bon, c'est nous-mêmes qu'on prend des décisions, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à pouvoir le faire dans le but d'être agréable à Dieu et ne pas se conformer à la pensée de ce monde. Et après avoir dit ça, je vais introduire notre sujet aujourd'hui. On a parlé la semaine passée, je pense, du mariage. Donc, après le mariage, normalement, qu'est-ce qui vient? Les enfants. Ce thème-là, avoir un enfant ou avoir des enfants. Donc, on aurait pu dire avoir des enfants aussi. Mais on va étudier ce qui concerne, dans le cadre du mariage, sœurs, c'est sûr que la Bible nous dit qu'on peut avoir où on va avoir des enfants, c'est dans le cadre du mariage. En dehors du mariage, c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est sûr qu'on peut élever un enfant et dans des circonstances spéciales, mais en ce qui concerne ce que la parole dit par rapport aux enfants, c'est dans le cadre du mariage. Donc, nous allons voir tout de suite. J'ai mon clic-clic ici, c'est moi qui vais passer les diapositives. Donc, la leçon 19, nous allons faire un petit rappel en ce qui concerne la semaine passée, quand on avait étudié le mariage, parce que ça va avec aussi. Et donc, nous lisons dans Genèse 2, 22 à 24, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à qui? À sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc, c'est l'union par Dieu, lui-même, c'est lui-même qui a uni, c'est lui-même qui a établi le mariage, donc, qui a institué le mariage. Et c'est lui-même qui unit les deux êtres, un seul cœur et une seule chair. Puis on avait vu que Dieu a permis la sexualité aussi un peu pour symboliser cette union qui est juste dans le cadre du mariage. Donc, nous lisons aussi dans Genèse 1, 27 à 28, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu bénit et leur dit, soyez féconds. » Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Donc, soyez féconds, multipliez la terre. Donc, la façon de multiplier la terre, de peupler la terre, c'était en ayant des enfants. Donc, nous pouvons en déduire que Dieu désire que les couples mariés puissent avoir des enfants. Donc, on le voit aussi au travers de toute l'histoire biblique, là, que Dieu s'attend à qu'un couple puisse avoir des enfants. Il y a des exceptions, on va en parler tantôt, mais en règle générale, même quand il parle au niveau dans 2 Timothée des anciens, il dit que le père puisse avoir des enfants soumis à Dieu aussi. Donc c'est un des prérequis aussi pour les anciens. Ça ne veut pas dire non plus que si tu n'es pas marié, tu peux être un ancien, mais la parole de Dieu, il demande plutôt que c'est mieux que ce soit un homme qui soit marié avec des enfants. En tout cas, les enfants nous donnent, nous forment, hein, je crois. Et les enfants sont formés aussi quand ils grandissent à cause de ses parents aussi. Donc, on peut en déduire que ce que Dieu veut, c'est que les couples mariés puissent avoir des enfants. Donc, nous lisons aussi dans Genèse, comme on a lu tantôt, cette union ou des fruits. Elle peut avoir un ou des fruits et peuvent sortir comme un témoignage ou un résultat de cet amour qui unit l'homme et sa femme. Donc, soit on a un enfant ou d'autres enfants. Nous, au début, on pensait avoir juste deux enfants et on a eu quatre. Et on a eu deux dans la première église hispanophone, puis deux dans cette église-là quand on est arrivé ici. Donc, c'était toute une surprise de continuer. 7 ans après, on a eu l'autre couple d'enfants. Donc, Dieu a été bon. Puis il a permis qu'on puisse avoir 4 enfants. C'est par sa grâce seulement. Et on aurait pu peut-être ne pas avoir d'autres enfants, mais on a eu 4 enfants et Dieu nous a bénis. Le mariage est le contexte dans lequel Dieu veut que les enfants grandissent. Donc on le voit dans la parole de Dieu. Il dit dans le psaume 78, 5 à 7, il dit: il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour que le connaissent ceux qui, de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils, et ils mettront leur assurance en Dieu. C'est important ça, hein? Le fait de transmettre la parole de Dieu à ses enfants, la loi dans ces temps-là, et parce qu'on est en train de parler dans un contexte du peuple d'Israël, et le but c'était qu'ils puissent partager la loi et enseigner la loi à ses enfants pour qu'ils puissent mettre leur assurance en qui? En Dieu, dans le but qu'ils puissent croire en Dieu. Et ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. Donc, le mariage est le contexte dans lequel Dieu veut que les enfants grandissent. Et c'est la responsabilité des parents de pouvoir enseigner les enfants et les éduquer, les élever dans la crainte de Dieu. Donc, Dieu nous confie nos enfants pour faire des disciples. On entend souvent que Dieu nous prête les enfants, hein, pour un temps, peut-être 20 ans jusqu'à ce qu'il se marie, 25 ans, 30 ans. Mais il y en a qui se marient trop, il y en a qui se marient un peu plus. Mais à un moment donné, le couple, il n'y a plus d'enfants. Donc, il reste seul, des fois, à la maison. Donc, mais Dieu nous confie nos enfants pour faire ses disciples. Donc, Éphésiens 6 à 4 dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. En les quoi? En les corrigeant et les avertissant. Selon quoi? Selon vous? Non, il dit selon le Seigneur. Et Deutéronome 6, 6 à 7, il dit: et ces paroles que je te donne aujourd'hui, c'est encore la loi, il me semble, qui te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras, c'est pendant la loi, oui. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Donc, qu'est-ce qu'il faut enseigner dans ce temps-là? C'était la loi de Dieu, la parole de Dieu à ses enfants. Tu donnes aujourd'hui selon dans ton cœur, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans la maison et dans toutes circonstances. Donc, la responsabilité que nous avons comme parents, c'est d'enseigner la crainte de Dieu à nos enfants, enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Ce n'est pas facile, mais il faut persévérer dans cet enseignement. Donc, les Écritures nous montrent que Dieu associe les enfants à la bénédiction. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Amen. Pour ceux qui ont des enfants, j'entends pas trop des amen. Les enfants, les ados, pas les ados, hein. Les enfants. Non, les ados aussi, c'est nos enfants aussi. Donc, sont une bénédiction de Dieu, vraiment. Et, savez-vous, là, quand on a des enfants en bas âge, c'est bon, nous, on peut jouer avec et tout. Et, ils sont très dépendants de nous. Mais quand ils commencent à grandir, Et ça tombe mal parce que ma fille est juste devant moi, là. Elle est gênée. Donc, il n'y a pas d'autre. David est en bas, donc elle était mal prise, Gabriela. Et donc, je vais regarder là-bas. Donc, mais ils grandissent, mais ils se rendent compte aussi comment ses parents ils sont. Non? Puis là, ils apprennent à nous connaître aussi. Et des fois, ils voient tous nos défauts aussi. Ce n'est pas juste les ados qui ont des défauts, les adultes aussi. Oui, qui a dit oui? Oui, on a des défauts, puis on grandit ensemble, on croit. Ils grandissent, nous, on vieillit avec eux. Mais c'est tout un enseignement, les enfants, pour les parents, tant pour les parents que pour les enfants. Donc, le psaume 127, 3 à 5, il dit, « Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense, c'est vraiment une bénédiction. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, et là on met ces flèches-là, ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. » Donc, nos enfants, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Donc, un enfant est une bénédiction de Dieu accompagnée des nuits blanches, qui n'a pas passé des nuits blanches, et de beaucoup de larmes aussi, ouais, mais il demeure une bénédiction quand même. Et nous ne devons jamais oublier ça. Donc, je pense qu'on n'oublie jamais ce qu'on a passé avec nos enfants. D'ailleurs, le psaume 34, 2, il nous dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, bon ou mauvais moment. » Et en ce qui concerne nos enfants aussi, sa louange sera toujours dans ma bouche. Il faut être reconnaissant à Dieu à cause de nos enfants. Donc, les Écritures nous disent que les voies de Dieu dépassent notre compréhension et ces voies ne sont pas les nôtres quand on voit que Dieu ne donne pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai que la parole de Dieu dit que les enfants sont une bénédiction pour le couple, pour le couple marié. Mais qu'est-ce qui arrive quand que les enfants n'arrivent pas? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'ai pas vécu ça. C'est sûr que je pourrais dire, bon, prie fort, confie-toi à Dieu, il va faire. Mais c'est facile quand quelqu'un va me dire, mais toi, tu as 4 enfants. C'est vrai. C'est vrai que c'est difficile, mais Dieu a son temps, des fois, pour voir des enfants, ou des fois, il peut fermer la porte et dire, pas d'enfants pour le couple. Donc, on doit reconnaître, des fois, on doit vivre avec ça. Donc, les Écritures nous disent que les voies de la terre, des dieux, nous dépassent notre compréhension. Les raisons pour lesquelles il retient les enfants lui appartiennent, juste à Dieu. Il sait pourquoi, des fois, ils n'ont pas des enfants, ou même, des fois, ils donnent juste un enfant. Nous sommes 7 à la maison, 7 frères et sœurs. Ma mère a eu 7 enfants, mais mes sœurs, elles pensaient avoir beaucoup d'enfants aussi. Mais elles en ont eu juste une fille chacune. Donc, c'est vrai, mon autre sœur, elle suit les pas de ma mère. Elle a déjà 3 enfants. Mais mes deux autres sœurs, elles auraient voulu avoir, mais ils ont juste un enfant. Donc, la raison appartient à Dieu. Nous prions et nous cherchons la faveur de Dieu, sa force, et nous implorons sa grâce. J'imagine que les couples qui veulent avoir des enfants, vraiment, ils prient Dieu pour qu'ils puissent répondre à leur prière. Mais on voit dans la Bible aussi, dans l'histoire biblique, on voit de la Genèse en 11-30 des fois, déjà au début, on voit que Saraï était quoi? Stérile. Il n'avait point d'enfant. Genèse aussi 25-21, il dit qu'Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle quoi? Elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication et sa femme Rebecca devint enceinte. C'est quand même drôle de voir que même Abraham et son fils Isaac, les deux, ces femmes, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais Dieu, à son temps, il a pourvu. Dans Genèse 29, 31 aussi, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et elle rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. C'était qui ça? Les femmes à qui? à Jacob aussi. Donc on voit la lignée encore là. Et il y a des femmes qui étaient stériles, et donc Léa, elle a été féconde. Dieu a permis qu'elle puisse avoir des enfants, mais pas dans le cas de Rachel. On le verra plus tard que Dieu exauce la prière de Rachel. Dans Genèse 32, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, parce que Rachel voulait vraiment avoir des enfants, et il dit, suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Donc on voit vraiment clairement que c'était par la volonté de Dieu que Rachel était stérile. Pardon si des fois ça sort estérile. Hein? C'est le micro qui fait un... Deutéronome 7,14 dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Là, dans ce verset, on voit que pas juste les femmes qui sont stériles, c'est aussi les hommes qui sont stériles. Il dit, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Mais des fois, on veut savoir pourquoi cela arrive. Donc, est-ce que j'ai avancé trop vite? Non? OK. Même le progrès, les connaissances médicales ne peuvent pas entièrement expliquer pourquoi certains couples ne peuvent pas concevoir ou ne peuvent pas avoir d'enfants. Et les outils, les dépistages même les plus sophistiqués de l'histoire de l'humanité sont eux-mêmes limités dans ce qu'ils peuvent nous dire sur le pourquoi et le pourquoi pas de la conception. En réalité, ça reste des fois un mystère. Des fois, il y a des méthodes qu'on va voir tantôt, des raisons pourquoi les femmes ou les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils réussissent à trouver la raison, mais il y a des fois qu'on ne sait pas vraiment. Et encore là, s'ils trouvent la raison, ils ne savent pas pourquoi ça s'est produit, pourquoi ça arrive que des femmes, et des fois, ou les hommes ne peuvent pas, ou le couple ne peut pas avoir d'enfants. Les causes de l'infertilité ou de la stérilité sont nombreuses. La cause la plus fréquente concerne un problème lors de la production des gamètes, qu'on appelle. J'ai appris quelques mots dans cette étude-là. J'ai fait beaucoup de lectures par rapport à ces choses-là. Donc, les gamètes, c'est vraiment c'est les cellules. Pour les hommes, c'est les spermatozoïdes, et pour les femmes, c'est les ovules. La production des gamètes, soit en ce qui a trait à leur quantité ou à leur qualité même. Donc, des fois, il n'y a pas assez d'ovules pour pouvoir donner la vie, ou soit aussi des gamètes des hommes qui ne peuvent pas se rendre pour féconder un ovule. Toutefois, les causes de l'infertilité d'un couple demeurent encore souvent inexpliquées. Au Canada, on estime entre 10 à 15% les couples qui sont infertiles, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. D'un point de vue médical, on définit l'infertilité comme étant l'incapacité pour un couple de concevoir naturellement un enfant après un an. Certains de ces couples se tournent alors vers l'adoption. Ça, c'est une option aussi. D'autres utilisent plutôt la biotechnologie, ce qu'on va parler tantôt, pour les aider à avoir un ou plusieurs même enfants. Donc, ils se tournent vers la médecine. Quoique des fois, la médecine n'est pas une solution qui est à 100%, tantôt on va voir les pourcentages aussi, sûrs qu'ils vont avoir des enfants, mais il y a quand même une voie pour qu'ils puissent avoir des enfants. Donc, on va voir les options médicales. Est-ce que la médecine, avec le progrès de la médecine, on va voir comment, des fois, les couples peuvent avoir des enfants. Donc, il y a des options qui se présentent. Les options médicales sont prometteuses, mais éthiquement complexes en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne la vérité biblique, en ce qui concerne la façon où le cadre que Dieu a établi pour avoir des enfants. Donc, on va voir maintenant en quoi ça se concerne, ces méthodes, puis on verra après avec la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Le but vraiment, frères et sœurs, je ne sais pas, je ne connais pas ici, si vous êtes, s'il y a un couple jeune qui essaie d'avoir des enfants, le but n'est pas de vous sentir mal à l'aise, c'est vraiment de voir une orientation biblique en ce qui concerne ces méthodes. OK? Puis je ne me considère pas un expert là-dessus, j'ai lu beaucoup là-dessus, mais je ne considère pas encore là parce qu'on ne sait pas et pourquoi c'est quoi ces raisons-là. Mais on voit que la médecine offre des options pour que les couples puissent avoir des enfants. Est-ce que ces options sont vraiment bibliquement acceptables? On va le voir et vous allez en déduire vraiment par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, les options médicales sont prometteuses, mais éthiquement complexes. Ce qu'on connaît, c'est le PMA, ou procréation médicalement assistée. Et désigne l'ensemble des pratiques cliniques et des techniques biologiques, des préparations et des conservations des gamètes utilisées dans le but de procréer en dehors d'un processus naturel. Et déjà, on voit déjà et peut-être un inconfort avec cette définition. Donc, il désigne un ensemble de pratiques cliniques. Donc, lorsqu'un couple décide de se tourner vers la procréation médicalement assistée, la PMA qu'on l'appelle, pour concevoir un enfant, il doit d'abord subir un bilan de fertilité. Il y a tout un processus pour pouvoir entrer. Je pense même que le gouvernement de Québec, en Europe aussi, est accepté, même est subventionné par l'État. Il y a je ne connais pas exactement combien de traitements le couple peut avoir droit, mais ça avance avec le temps aussi. Et je sais qu'un des traitements, ça coûte au moins 15 000 $. Donc, dans le temps qui n'était pas couvert par l'État, donc c'était quand même assez cher. Ce bilan permet au médecin de déterminer les causes et la nature de la difficulté, ce qui lui permet de proposer un traitement adéquat selon la PMA. Donc, différentes techniques de procréation médicalement assistée ont été mises au point afin d'aider les couples infertiles ou stériles à concevoir un enfant. Et 4 sont le plus courant utilisés. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, les traitements hormonaux. Et ce n'est un qui est connu, c'est un des premiers que les médecins essayent avec les couples. L'insémination artificielle est encore là, ça dépend de chaque couple, donc ça se peut qu'ils procèdent maintenant à l'insémination artificielle d'un coup d'emblée, donc peut-être qu'ils n'essayent pas avant les traitements hormonaux, ça dépend le cas de chaque couple. La fécondation in vitro, la fécondation par micro-injection. Donc, c'est les 4 les plus connus, mais il y en a d'autres aussi. Il y a aussi, je crois, la mère porteuse. OK, c'est aussi, il y a des pays qui ne l'acceptent pas, mais c'est une option aussi. Et à part l'insémination artificielle, donc il y a quand même d'autres méthodes qui sont offertes par la médecine. Dans les traitements hormonaux, la prise des médicaments à base d'hormones pour corriger une infertilité causée par des problèmes hormonaux. Donc, généralement, ce traitement sera utilisé chez une femme qui n'a pas d'ovulation ou très peu. Donc, ce traitement, ça aide à pouvoir créer des ovules pour pouvoir aider à la conception. Donc, des fois, ça peut marcher ou des fois, ça ne peut pas marcher. Je crois que c'est à peu près 10% des cas. Et ça aide à pouvoir avoir des enfants, donc les résultats. Donc, c'est quand même bas le pourcentage pour cette méthode. Maintenant, c'est l'insémination artificielle. Ça n'est une autre option médicale lors d'un problème concernant la production des spermatozoïdes pas assez nombreux ou mal formés. Les médecins ont souvent recours à l'insémination artificielle. Donc, cette technique effectue à l'aide d'un cathéter, un tube très fin, et consiste à injecter les spermatozoïdes directement dans l'utérus de la femme. Et on dit alors que la fécondation a eu lieu in vivo, au lieu d'in vitro. C'est in vivo, c'est-à-dire à l'intérieur du corps de la femme. Mais encore là, c'est tout un processus parce que la femme aussi suit tout un traitement pour hormonal aussi, pour aider au niveau, à créer des ovules et pour aider aussi ces spermatozoïdes à pouvoir, comment je peux dire, féconder un ovule. Donc ça, c'est ce qui concerne l'insémination artificielle. La fécondation in vitro, contrairement à l'insémination artificielle, la fécondation dite in vitro se déroule à l'extérieur, du corps de la femme. Cette technique permet à la fécondation, une fécondation en laboratoire en réalité. On l'utilise généralement lorsque les tentatives d'insémination artificielle ont échoué. Donc ça là, c'est vraiment, ça se fait à l'extérieur. Donc on prend un ovule ou des ovules et on prend des spermatozoïdes et on fait ça à l'extérieur in vitro dans une éprouvette et par des procédés techniques et médicales pour pouvoir, comment je peux dire ça, faire en sorte qu'il puisse avoir une conception, fécondation. Et après, c'est cette fécondation qui produit on appelle ça l'embryon, et on l'insère dans l'utérus pour qu'il puisse avoir une conception ou un début de grossesse. Déjà, vous voyez que cette technique, ça va en dehors du corps. Mais malgré ça, il y a des résultats positifs. À peu près 20% des couples, ça a l'air qu'ils réussissent à avoir un enfant. Donc, il y a la fécondation par micro-injection. C'est la même chose que le in vitro. Mais quand il y a beaucoup plus de problèmes à pouvoir rendre possible la fécondation. Donc, la médecine est arrivée juste à prendre un ovule, puis avec une aiguille très, très, mais très, très fine, à insérer une spermatozoïde pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse avoir une fécondation. Donc, c'est très avancé. Mais les possibilités sont encore moindres pour cette méthode-là. Donc, l'embryon obtenu sera ensuite implanté dans l'utérus de la mère, comme dans le cas de la fécondation in vitro. Et cette technique est utilisée lorsque la fécondation n'est pas possible en éprouvette. Donc, c'est comme la dernière option pour essayer d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce que c'est la fécondation? Je pense que vous le savez, ou la conception. Pour qu'il y ait fécondation, un spermatozoïde doit rencontrer et fusionner avec un ovule. Et chaque gamète, c'est-à-dire chaque cellule, soit de la femme ou de l'homme, possède la moitié du bagage génétique de la cellule dont elle est issue. Donc chaque parent contribue donc à la moitié de l'ADN des cellules du fœtus. C'est incroyable ça, comment Dieu a fait. Hein? Et la première cellule se nomme zygote. Elle reste unique. Quand il y a une conception, c'est vraiment c'est là qu'on voit la vie, là, vraiment. C'est, médicalement parlant, c'est là qu'on voit la vie. Et donc, c'est vraiment unique. Chaque embryon, c'est unique. C'est incroyable comment Dieu a fait en sorte que chaque personne soit unique. Chacun de nous, on est différent. Même si on est, je crois même s'ils sont des jumeaux, identiques même, mais c'est unique. Chacun a sa propre personnalité. Chacun est créé différemment. Donc, l'embryon débute en développant après que le zygote, c'est quand l'embryon est tout jeune, peut-être moins d'une journée, et commencer à migrer vers l'utérus. Mais on voit déjà la vie. Puis on voit déjà que, avec ces avances médicales, on voit que la vie, il est créé en dehors du corps de la femme. Quoi dire de tout cela? Est-ce que... parce que c'est une décision de couple, des fois même, frères et sœurs. Il y a des couples que, dans le couple, ils ne sont pas d'accord, là, même. Chaque couple est différent. Donc, des fois, soit la femme, soit l'homme n'est pas d'accord, ou soit l'homme veut aller vers la médecine et pas la femme. Donc, c'est quand même difficile. Et des fois, nous ne connaissons pas ces genres de problèmes qui existent dans le couple. Que ce soit ça, ou que ce soit aussi le fait de vouloir avoir des enfants et des femmes qui ont des fausses couches aussi. Des fois, ces couples-là vivent ça dans le silence. Donc, il faut peut-être, je ne sais pas, prier pour ça et être prudent aussi quand on demande à un couple qui vient de se marier ou qui, depuis 2-3 ans, sont déjà mariés, n'ont pas d'enfants, prudent à poser la question. Et ça peut être vraiment des fois blessant. Dire, hey, puis quand? Ou peut-être même pas vous. Je sais que les grands-mamans, ils commencent déjà très, très tôt à vouloir avoir. Mais c'est sûr qu'une grand-maman veut avoir des petits-enfants. Mais même là, il faut être prudent. Chaque couple vit différemment. Et quand ça arrive, ce genre de problème, vit différemment ce problème-là. Et donc, il faut demander sagesse à Dieu comment approcher quand on connaît peut-être la situation et quand on sait qu'ils sont en train de prier. Aidons-le et dont les couples, peut-être en priant pour eux, et en les entourant, et voir de quelle façon on peut les aider. Donc, Deutéronome 32-39 dit que Dieu est le maître de la vie. Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu. Il dit, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne livrera de ma main. Donc moi je fais vivre et je fais mourir. C'est lui le maître de la vie, c'est lui qui décide. Dans 1 Samuel, je pense que vous connaissez un peu ce passage-là, c'est le passage d'Anne. Je pense que c'est même dans sa prière, il dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Et plus que Anne qui a vécu ça aussi pendant longtemps, et il a demandé à Dieu pour avoir un enfant, et Dieu l'a exaucé sa prière. C'est là qu'il vient Samuel. Donc, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. Donc, c'est l'Éternel qui fait mourir et fait vivre. Dans Jérémie 1:5, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Donc, c'est Dieu vraiment le maître de la vie, selon ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Ecclésiaste 11:5, « Comme tu ne connais pas point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Il fait tout, c'est l'auteur de la vie. Donc, c'est vrai qu'on ne connaît rien de ça. La médecine essaie de voir vraiment, de découvrir, mais Dieu a permis jusqu'à certaines mesures de pouvoir comprendre, pouvoir aider. Dans ce sens-là, les couples peuvent avoir des enfants, mais on ne connaît pas vraiment. Et Dieu a permis jusqu'à aujourd'hui ces avances au niveau médical, mais Dieu aussi peut arrêter tout ça. Ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va avoir après aussi. On ne sait pas. On va être en face de ces choses-là et on va devoir prendre des décisions en ce qui concerne l'enseignement biblique. Aucun bébé ne décide s'il est humain. Aucun parent ne décide si son bébé est humain. Aucun donneur de sperme ou ovule d'utérus ne décide si le bébé est humain. Aucun médecin qui rassemble tous les morceaux ne décide si le bébé va être un humain. Qui le fait, selon ce verset? C'est Dieu qui le fait, en réalité. C'est Dieu qui permet tout ça. Donc, Dieu est le maître de la vie. Dans Psaume 139, qu'on a déjà lu, je crois, auparavant, dans d'autres études, du verset 13 à 17, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. » Oui, c'est ça. « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Quand je t'ai né, quand je n'étais qu'une masse informe. » Si vous avez vu la photo d'un embryon, là, c'est bizarre, hein? C'est juste une pointe noire là, avec une grosse tête. Mais il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui était fixé avant qu'aucun d'eux existe, qui était pensé au Dieu, me semble impénétrable. Donc, on voit que vraiment que c'est Dieu qui est le maître de la vie, et c'est lui qui établit la façon les couples peuvent avoir des enfants. Quoi faire donc de la médecine? Gardons une éthique biblique, c'est-à-dire restons dans le cadre biblique, et comment Dieu a établi, c'est quoi la façon, comment Dieu a établi pour qu'on puisse avoir, des enfants, comme on l'a vu tantôt. Et ce n'est pas parce qu'il existe des techniques d'assistance médicale à la procréation qu'il faut les utiliser forcément. Par contre, Dieu, dans sa providence, utilise la médecine pour notre bien. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, que Dieu utilise dans sa providence la médecine pour notre bien. Et la médecine doit être considérée comme une manifestation aussi de la grâce de Dieu, contribuant à réparer les effets de la chute. Donc on les voit dans d'autres aspects aussi, que ce soit, et c'est pas juste dans le cas de l'infertilité, on utilise la médecine pour d'autres choses aussi. Chercher à se soigner ou à réparer quelque chose ne reflète pas un manque de confiance en Dieu, ni un rejet de sa souveraineté. Comme on a vu, Dieu permet qu'on puisse avoir recours à la médecine. En revanche, nous devons être conscients des limites de la médecine et la garder à sa juste place. Bien que la médecine soit un don de Dieu, il peut arriver que les solutions qu'elle propose soulèvent des questions de conscience ou d'éthique chrétienne. C'est pour ça qu'il faut connaître c'est quoi le plan de Dieu dans nos vies. C'est pour ça qu'il faut connaître quel est le cadre que Dieu a établi pour que le couple puisse avoir des enfants. C'est vraiment difficile, la décision est difficile, mais il faut voir, il faut respecter, si on peut dire, le cycle de la vie. Et vraiment, comme on le voit, c'est vraiment la conception naturelle. Mais il peut avoir, je sais qu'il y a des couples qui vont chercher de l'aide aussi, peut-être avec des hormones ou quelque chose qui permet qu'ils puissent tomber enceinte et avoir des enfants. Mais il faut vraiment chercher la sagesse de Dieu en tout cela. Chaque couple, comme je dis, c'est différent, mais que Dieu nous aide à pouvoir prendre des décisions. Je sais que c'est difficile, même perdre un enfant. Des fois, on pense, avoir un enfant, mais même perdre un enfant. Il y a des couples qui ont perdu des enfants. C'est difficile. Et puis, c'est dans la volonté de Dieu. Mais comme on l'a répété aussi, que Dieu, des fois, ne permet pas que le couple ait des enfants. Mais c'est aussi difficile perdre un enfant spirituellement. Là, il n'y a pas de médecine qui peut le retourner à Dieu. Et donc, il y a des parents que nous vivons, qui vivons ça. Et nous prions à Dieu. Et s'il y avait la médecine pour donner à mon fils pour qu'il revienne à Dieu, est-ce que je le ferais? Donc, mais il faut vraiment demander à Dieu et qu'il nous donne la sagesse pour pouvoir faire selon sa volonté. Et puis prier et être, comment je peux dire là, avoir le contentement. Et remercier à Dieu pour tout ce qu'il nous donne ou tout ce qu'il ne nous donne pas. Mais je suis convaincu que vraiment, il faut vraiment demander la sagesse à Dieu pour vivre avec toutes ces problématiques, même comme Église. Ça nous fait de la peine aussi qu'il y a des couples qui souffrent pour ça. Mais il y a des couples aussi qui même sont en paix avec ça. Ils vivent très bien et ces problèmes. Puis même, il y a des couples qui adoptent des enfants. Dans le psaume 119, 125 à 30, le psalmiste écrit, « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence, il dit, pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, on voile ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or même que l'or fin. Et c'est pourquoi en tous, je considère tous tes statuts comme droits. Je déteste toute voie de fausseté. Tes préceptes sont merveilleux. C'est pourquoi mon âme les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La seule façon comment on peut vraiment voir, c'est vraiment en lisant la parole de Dieu et en cherchant la sagesse auprès de Dieu. Il dit que la révélation de tes paroles est claire. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous aide des fois à prendre des décisions difficiles même. Et elle donne l'intelligence aux simples. Elle nous donne la sagesse aussi pour pouvoir faire face à tous ces genres de problèmes. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui permet tout cela. Et c'est à Dieu qui appartient la vie, comme on a lu tantôt. Amen. Prions donc. Merci Seigneur pour ce temps avec mes frères et sœurs, Seigneur. Et merci Seigneur parce que on voit que tu es le maître de la vie, Seigneur. Puis tu donnes les enfants pour notre bénédiction, Seigneur. C'est vraiment une bénédiction, mais des fois tu ne donnes pas, Seigneur. Puis quand, Seigneur, puis j'ai pas vécu ça, mais je t'ai prié que s'il y a peut-être ici à l'église des couples qui ont ces problèmes-là, je te prie de les entourer et nous aider à pouvoir, avec sagesse, les entourer aussi. Et Seigneur, prier pour eux et les encourager, Seigneur, avec ta parole. Et Seigneur, pouvoir les guider aussi, soit prendre des traitements ou les guider ou les conseiller, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu permets, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire et permet qu'on puisse toujours, Seigneur, chercher et essayer de chercher les réponses dans ta révélation, Seigneur. Nous te prions tous au nom de Jésus. Amen.